Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Son passage en politique fut bref et mouvementé, mais il demeure une figure mythique des indépendances africaines. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Patrice Lumumba, martyr de la décolonisation.
Le premier objectif, c'est grouper tous les Congolais sans distinction de tribus, de races, de classes ou de religions en vue de réaliser l'unité nationale du pays. Deuxième objectif, c'est initier les Congolais à la vie politique. Et le troisième objectif, c'est réaliser l'indépendance du Congo et constituer un État démocratique moderne assurant à tous les citoyens le bien-être, la paix sociale et la liberté.
Patrice Lumumba, leader du mouvement national congolais, au micro de Raoul Goulard, c'était le 8 mai 1959. Il occupe à ce jour une place à part dans l'histoire africaine. Nationaliste, panafricaniste, il s'est battu pour l'indépendance du Congo avant de connaître une fin tragique. Déchu, torturé, humilié, il est mort assassiné 6 mois à peine après avoir occupé les plus hautes fonctions. Pour plusieurs, il demeure un martyr, un héros pour les opprimés.
Congolaise, combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravé dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Propos de Patrice Lumumba lors de la proclamation d'indépendance du Congo le 30 juin 1960 dans un discours qui va demeurer célèbre. Ah, pour nous en parler, mon invité, Lumumba Emongo, professeur retraité du Collège Hansik à Montréal, chercheur invité à l'Université de Montréal, et puis surtout auteur d'un livre qui a pour titre « Le paradigme Lumumba, libre ou mourir », lui-même d'ailleurs d'origine congolaise. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité à ce forum qui me tient à cœur.
On aurait pu choisir d'autres figures des indépendances africaines, mais Patrice Lumumba semble occuper une place à part dans l'histoire.
Pourquoi? Il ne semble pas occuper une place à part dans l'histoire. Il occupe une place fondamentale, un peu comme disait un haïtien, d'un autre haïtien, qu'il était le nègre fondamental de l'indépendance haïtienne. Eh bien, Patrice Emery Lumumba, c'est le noir fondamental de l'indépendance africaine. Non pas qu'il fût le premier à vouloir cette indépendance, mais il en devint l'emblème suprême. Et d'ailleurs, à son assassinat, j'anticipe un petit peu, eh bien, nombre d'ambassades belges ont été incendiées un peu partout en Afrique et dans le monde. Et tenez-vous bien, jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore des timbres à l'effigie de Lumumba jusqu'en Mongolie. C'est tout dire.
Ouais. Mais parlons-en de Lumumba. Alors, qui est-il? D'où vient-il?
Mais Lumumba, c'était un homme simple, né dans un petit village qu'on appelle Onaloa, pas plus important ou moins important qu'un autre. Lumumba est né en pleine colonisation. Vous savez que Léopold II, après la conférence de Berlin, ça arroge tout droit sur son état indépendant du Congo en 1904. les exactions des sociétés qui avaient fait affaire avec lui pour exploiter le caoutchouc et les ressources naturelles du Congo feront que, alors, les mains coupées, etc.
Oui.
Ça va faire qu'il y aura une enquête organisée par des pays occidentaux, notamment l'enquête Casement, parlementaire anglais. Ça va aboutir à une condamnation unanime des méthodes de Léopold II au Congo. C'est ainsi qu'en 1908, pour ne pas perdre tout, il va léguer le Congo à la Belgique. Et c'est en 1908 que naît le Congo belge. Le Congo devient donc propriété belge après avoir été propriété personnelle du roi des Belges.
Oui, tout à fait.
Et c'est donc à cette époque, si vous voulez, du colonialisme triomphant que Lumumba naît, il grandit. Il fait des études dans le système colonial. Il monte d'échelons difficilement, etc. Mais toujours dans le système colonial qui voulait que, un, tous les autochtones, tous ceux qu'on avait trouvés sur place, étaient des sauvages. Mais ça, je ne vous apprends rien. Mmh. Et donc, ils deviendront des êtres humains dans la mesure où ils vont être assimilés progressivement. Première étape d'assimilation, c'était ce qu'on appelait les évolués.
Oui, oui, oui. Le mot, choquant, les évolués.
C'est plus que choquant, ce sont des mots déshumanisants, chosifiants.
Oui.
C'est-à-dire que vous n'êtes rien si vous n'évoluez pas vers nous. Et c'est ça le principe même de la colonisation. Vous savez, monsieur, on ne colonise pas un peuple, on colonise un territoire. Et le peuple qu'on trouve sur ce territoire devient un obstacle à la colonisation du territoire. Alors, une des solutions, c'est justement au besoin d'exterminer ce peuple ou alors de l'amener à se laisser contrôler. Et c'est ça, donc, vous êtes évolué parce que vous parlez français ou flamand, vous êtes évolué parce que vous savez lire et écrire, vous êtes évolué parce que vous vous êtes fait baptiser et parce que vous récusez suffisamment vos traditions sauvages, etc. Deuxième étape de cette évolution, que Lumumba aussi a suivi, c'est devenir immatriculé, c'est-à-dire vous êtes assimilé. Alors, il y a un examen que vous passez à tous les niveaux et la Belgique magnanime confirme que M. Patrice Emery Lumumba, sa femme et ses enfants sont suffisamment assimilés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre comme des Belges. Et donc, on vous décerne un certificat d'assimilé. On appelait ça de mérite civique.
Oui, ça va jusque-là.
Lumumba l'a eu, eh oui.
Oui.
Alors donc, il aurait pu se contenter d'avoir fait tout le cursus colonial. Il a atteint le sommet. Sauf que, voyez-vous, dans certains individus, le contentement n'est jamais de saison. Patrice Emery Lumumba ne sera jamais content de rien. Alors, c'est là que le grand tournant va arriver, il va se faire arrêter, et c'est dans son cachot, dans sa cellule, qu'il va lire un petit livre, disons un texte qui va être baptisé de « Manifeste de conscience africaine », écrit par des intellectuels congolais de la capitale. Lui se trouvait en province, prenant connaissance du fait que des Congolais comme lui réclamaient déjà l'indépendance. Il va donc se rendre compte, brutalement, que lui était en retard de ce qui se passait dans son propre pays.
Oui.
D'où le basculement. Il quittera donc la province pour la capitale. Ce sera très difficile pour lui de trouver un emploi. Il le trouvera. Et ceci est très important. Il va donc chercher par tous les moyens à rentrer dans le mouvement de réclamation de l'indépendance. L'opportunité lui sera donnée par des réunions d'intellectuels de l'époque autour du cardinal Malula, premier cardinal autochtone, qui lui avait créé un mouvement national chrétien. Il s'affiliait à ce mouvement et, tribun qu'il était, il prend la parole, il fascine tout le monde en disant « Écoutez, plutôt que d'en faire un mouvement chrétien, faisons-en un vrai parti politique parce que les enjeux de l'indépendance sont des enjeux purement politiques, au point de départ. » Et c'est comme ça, donc, que le mouvement national chrétien va devenir, sous l'impulsion de Patrice Emery Lumumba, le mouvement national congolais. On maintient le sigle, on change la perspective.
Chrétien pour Congolais, bien sûr, le MNC. Mais j'en reviens au document d'archives qu'on a entendu au tout début, hein, quand il dit « L'objectif premier du MNC, donc, c'est de regrouper tous les Congolais pour réaliser l'unité nationale. » Alors, pourquoi c'est important pour lui, ça?
Alors, c'était plus qu'important, et ça l'est aujourd'hui encore, parce que à l'époque coloniale, le Congolais n'était pas citoyen. En fait, il n'y avait pas d'État congolais, c'était un État colonial. C'est-à-dire que le Congo était plus ou moins une province belge, mais les autochtones du Congo n'étaient pas des citoyens belges. Bref, c'est assez compliqué. C'est pour ça que nous l'appelons l'État colonial, une particularité. Et donc, quel était le statut des Congolais dans cet État ? Mais on vous identifiait par votre ethnie. Et Lumumba avait vite compris, et probablement avant tout le monde, que si nous réalisons l'indépendance du Congo, alors nous devons tous devenir des citoyens. Il n'y aurait qu'un statut pour tout le monde. Cela nous éviterait le piège du tribalisme et de la division.
Oui.
Et c'est une des premières causes pourquoi Lumumba devenait un obstacle, parce que précisément, malgré que la Belgique a fini par accepter l'idée de céder l'indépendance, j'ai bien dit céder ou donner l'indépendance au Congo, la Belgique et les Occidentaux avaient vite compris qu'avec Lumumba, il ferait ça deviendrait une force nationale qui s'opposerait à nous, alors que l'idée du néocolonialisme jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde, c'est de diviser pour mieux régner, exactement comme ce fut à l'époque coloniale.
Oui, c'est de jouer ces divisions ethniques.
Non seulement de la jouer, mais de la provoquer, de l'entretenir.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui, on a teasé tout ça. Mais le gouvernement belge, lui, vous l'avez dit, donc, il se heurte à un front uni mené par Lumumba. Si bien qu'à la surprise générale, en janvier 1960, la Belgique annonce l'indépendance du Congo. Il y a une date qui est fixée, le 30 juin 1960. Et là, ce jour-là, le roi des Belges est présent, le roi Baudouin, qui livre un discours vraiment paternaliste là, sur la grande aventure du colonialisme. Et aussitôt, Patrice Lumumba donne la réplique dans ce fameux discours qui va demeurer célèbre. On les écoute tous les deux.
Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière.
Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres.
Nous sommes le 30 juin 1960 à Léopoldville, capitale du Congo belge, qui sera plus tard, bien sûr, rebaptisée. Et là, bon, indépendance, la suite va aller très vite. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas, la fête bascule vers le chaos. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
L'indépendance du Congo, proclamée le 30 juin 1960, le 5 juillet, mutinerie à l'armée. Le 11 juillet, la province du Katanga fait sécession, suivie un petit peu par la suite par la province du Sud Kasaï, c'est-à-dire les provinces les plus productives et les plus riches en minerais notamment.
Oui.
Quel est ce génie qui pourrait gouverner un pays qui n'avait pas 10 universitaires confirmés, dont toute l'administration publique était tenue par des Belges, complètement formés à l'idéologie colonialiste, qui n'a pas d'armée parce que l'armée colonial était dressé pour bastonner le nègre afin de le contrôler et qui vient de perdre sa base économique. Donc Lumumba fait face à un néant total. Heureusement, lui et le président Kasavubu vont se battre de commun accord ensemble. Ça va aller jusqu'au communiqué qu'ils vont signer ensemble à Kindu pour dire, écoutez, si les Nations Unies ne nous donnent pas les moyens, eh bien, nous allons nous tourner vers n'importe quel pays au monde qui pourrait nous aider, y compris l'Union soviétique.
Voilà.
C'est à partir de ça qu'on va prendre prétexte pour dire Lumumba communiste. Or, et ceci est capital, en aucun cas, le prétendu monde libre ne pouvait pas laisser partir le Congo dans le giron communiste. Donc, Lumumba, accusé de communisme, devait disparaître.
Oui.
C'est là, c'était déjà décidé avant, mais là, on avait un prétexte. D'où le 4 septembre 1960, coup de théâtre, Kasavubu, eh bien, va dire « je démets le Premier ministre et quelques ministres ». Le 5, le lendemain, au petit matin, Lumumba, prenant la chose, passe lui aussi à la radio et dit « je démets le président ». Il n'y a donc plus ni président ni Premier ministre.
Oui, oui. Et là, c'est le chaos.
Et alors, le troisième couteau apparaît. Le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu. Mmh. Le 14 septembre, l'armée prend le pouvoir, neutralise le président, neutralise le Premier ministre. Mais en réalité, seul le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, est mis en résidence surveillée. Mais nous savons que derrière Mobutu, il y avait d'abord un groupe de Mbinza, des Congolais intellectuels, créés et organisés et maintenus par la Belgique. Et derrière ce groupe, il y avait donc la Belgique, la France et notamment les États-Unis. Mmh. Voilà donc comment seul Lumumba se trouve dans la ligne de mire de l'Occident et pas Kasavubu.
Oui.
Alors Lumumba va se débattre, les pays africains déjà indépendants comme le Ghana, etc., vont faire l'impossible pour le sauver parce qu'ils comprenaient ce qui se passait. D'ailleurs, en ce moment-là, Lumumba dira « ce qui se passe au Congo, c'est un test pour toute l'Afrique. Si le Congo retombe dans les griffes du néocolonialisme, toute l'Afrique basculera dans la nuit d'un nouveau colonialisme. » C'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, la fin, le champ de cygne va apparaître lorsque, à la session cette année-là de l'Assemblée générale des Nations unies, Lumumba étant parlementaire élu, envoie sa délégation. Mais le président de la République envoie aussi sa propre délégation. Étonnez-vous bien, les malheurs du Congo, voyez-vous, c'est aussi la fameuse communauté internationale, les Nations Unies, et je le dis avec force, l'Assemblée Générale, dont l'organe suprême du monde, a accrédité la délégation du président contre la délégation légitime du Premier ministre. Lumumba alors comprendra que si les Nations Unies le discrédite, mais il n'y a plus rien à faire. Il faut donc quitter la capitale.
Oui, et c'est ce qu'il va faire. Puis,
c'est ce qu'il va faire.
On connaît la suite. Il va se faire arrêter, malheureusement. Voilà. Puis, torturé, assassiné très rapidement. Pourquoi tant d'empressement? Parce que même son corps sera dissous dans l'acide. Pourquoi on voulait en finir si rapidement avec lui?
Pour ce qu'il représentait. Il représentait la conscience. Il parlait directement à l'homme et à la femme de la rue. Ce que Lumumba voulait, c'est l'indépendance totale, c'est-à-dire d'abord l'indépendance politique, symbolique, mais immédiatement après l'indépendance économique. Comment faites-vous de la politique si vous n'avez pas les moyens de votre politique? Or, la Belgique tenait à conserver la mainmise sur l'économie. Lui disait, nous traitons d'égal à égal, ce sont les Congolais qui décident de leurs ressources. Et ça, il n'en était pas question. Premier point d'achoppement. Qu'est-ce qui représentait ensuite la souveraineté réelle du Congo indépendant? Donc, désormais, nous sommes deux États indépendants, nous pouvons collaborer, nous pouvons coopérer, mais nous ne recevons pas de diktat. Il n'en était pas question du point de vue des colonialistes attardés d'Occident en général, belges en particulier.
Puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, parce que son assassinat, c'est bien au-delà du Congo, ça va créer une onde de choc à l'échelle internationale. Et à ce sujet, ben, tiens, on va écouter le ministre belge des Affaires étrangères à l'époque, c'était le 15 février 1961.
Mes chers compatriotes, en cette soirée difficile pour la Belgique, je voudrais faire une courte déclaration. Patrice Lumumba est mort. S'il est la victime d'un assassinat politique, nous condamnons énergiquement un pareil attentat. Le gouvernement l'a dit hier à la Chambre, et je le répète aujourd'hui, tout prisonnier doit être traité humainement et jugé par des tribunaux réguliers. Mais, parce que Patrice Lumumba est mort, victime des déchirements du Congo, le gouvernement et l'opinion belge voient leurs drapeaux et leurs ambassadeurs insultés et menacés, et leurs ambassades saccagées et même incendiées. Au Conseil de sécurité, ce soir, l'URSS demande la condamnation de la Belgique comme agresseur et le départ de tous les Belges du Congo. Je crois que l'URSS est le dernier pays qui soit qualifié pour accuser les autres. C'est assez. Mes chers compatriotes, on ne nous enlèvera pas l'honneur de l'œuvre accomplie au Congo. C'était la plus belle des colonies et nous en avons fait un État indépendant.
Il sera prouvé plus tard que la Belgique a joué un rôle dans l'assassinat de Lumumba. On pourrait consacrer un épisode complet sur les tractations, ce qui s'est joué derrière. Mais j'aimerais revenir sur le personnage. Quel est son héritage aujourd'hui?
Déjà, Jean-Paul Sartre, préfaçant le livre qui avait rassemblé déjà en 1963 tous les discours de Patrice Emery Lumumba, va dire que Lumumba mort est plus dangereux pour l'Occident que Lumumba vivant. Parce que maintenant, il devient ce qu'il lui-même avait dit. Il avait dit « Je n'ai ni père ni mère, je suis une idée. » Et c'est ça. Donc maintenant, vous ne pouvez plus l'abattre. Mmh. Parce qu'il a une idée qui va trotter sur des générations, dans la tête des générations et des générations. Son héritage, au Congo même, Lumumba n'a été jusqu'à preuve du contraire que récupéré politiquement et généralement loin de ses idéaux.
Oui.
Par exemple, il prônait la non-violence comme méthode de l'émancipation du Congo. Les insurrections des années 60 vont faire une rupture méthodologique parce qu'ils vont recourir à la lutte armée. Toutes les guerres que le Congo a connues vont diviser le Congo. Lumumba prônait l'unité nationale.
Mmh.
Tous les gouvernements, tous les chefs d'État que le Congo a eu jusqu'à aujourd'hui, sans aucune exception, ont été à la botte, sous la botte de l'Occident ou des multinationales. Lumumba prônait l'indépendance économique totale parce que le Congo est un pays libre. Alors donc, quand vous voyez tout cela, au Congo même, son héritage semble plus que mitigé. L'héritage de Lumumba n'est pas de consommation directe, c'est un défi. Le défi que lui a relevé au plus haut point. Le sacrifice suprême.
Oui.
Il s'est battu par les mots. Sartre, d'ailleurs, le dira. S'il fut dictateur, il ne fut dictateur que de la parole. Il n'a jamais envoyé personne en prison.
Mm-hmm. En tout cas, on sent chez vous une admiration pour ce personnage. Puis vous l'avez dit, qui est une idée, hein, en tout cas, qui a marqué les esprits. Mon invité, je le rappelle, Lumumba Emongo, professeur retraité du Collège antique à Montréal, chercheur invité à l'Université de Montréal et puis auteur d'un livre qui a pour titre « Le paradigme Lumumba, libre ou mourir », publié en 2016. Merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous remercie beaucoup. Ce livre est publié à Montréal aux éditions du Syndicat parce que c'est important que les gens le sachent.
Oui, tout à fait. Merci de le préciser. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Goutier là-dessus. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.